Dr. Youssef Ezard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président du Conseil des médecins dentistes et pharmaciens au 6 Côte-Nord. Monsieur Ezard, vous êtes revenu avec une deuxième lettre. Qu'est-ce qui a motivé cette action-là hier soir?
Hier, ça a été plus une mise au point parce que depuis ce week-end, la fameuse date fatidique du 19 mai est arrivée. Et on est vraiment dans une période de transition qui, malheureusement, met un impact important sur les soignants qui sont présents, et surtout, que ce soit à Sept-Îles ou à Baie-Comeau. Cette transition-là, c'est qu'on va se fier, on va bouger énormément la main-d'œuvre, notre propre main-d'œuvre entre les unités de soins. On va obliger les filles à rester, à faire des 16 heures, surtout du côté de Baie-Comeau. Puis la mise au point, c'est que on a réussi à bloquer ce fameux transfert de 20 patients déjà hospitalisés. Mais il faut noter que des patients qui viennent à l'urgence à Baie-Comeau ou bien à Sept-Îles, si on atteint une surcapacité, ils vont être transférés ailleurs. Donc encore, on est dans une situation où on doit transférer les patients qu'on aurait pu traiter chez nous. Et j'ai l'impression que l'histoire d'équipe volante règle tous les problèmes, ce qui n'est pas vrai malheureusement. L'équipe volante, pour l'instant, n'est pas venue nous aider, n'est pas venue nous prêter main forte. On nous parle de quelques jours, mais j'ai l'impression que c'est un plan qui est encore plus ou moins bien planifié par le gouvernement et qui dit « OK, tout est réglé chez vous », mais c'est pas vrai parce que les patients, ils en souffrent encore, puis la qualité de soins n'est pas idéale sur la Côte-Nord.
Quand vous parlez de discordance entre les rapports gouvernementaux et la réalité sur le terrain, c'est de ça que vous nous parlez. Quand vous parlez de TSO, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Vous parlez d'infirmières qui sont assignées au travail, qui doivent rester là?
Oui, exactement. C'est que entre samedi et dimanche, ce qui s'est produit, c'est qu'on a perdu notre main-d'œuvre indépendante. Leur contrat finissait, donc les nouveaux tarifs rentraient le dimanche, le 19 mai. Fait que les filles, dans les urgences, dans les unités de soins, donc surtout les soins critiques, les filles qui appartiennent au sud de la Côte-Nord, les employés, on les oblige à rester parce qu'il n'y a pas d'autres personnes qu'on peut aller chercher. Donc, pendant qu'on fait nos appels pour trouver de la main-d'œuvre indépendante, parce que c'est ça qu'il faut savoir, il y a encore des agences qui viennent sur la Côte-Nord, puis c'est eux qui nous aident plus que l'équipe volante actuellement. Pendant qu'on essaie de trouver du monde pour venir aider nos filles, ces filles-là, ils font des 16 heures de suite parce qu'ils sont formés pour faire du triage, faire des soins critiques, parce que ça prend une spécialisation de travailler dans les urgences. Donc, vous comprenez que le travail qu'ils font est exceptionnel, mais on les pousse, puis à un certain moment, la fatigue va apparaître, et cette fatigue-là va amener un risque pour les patients. Et le deuxième point qu'il faut apporter ici, c'est que entre samedi et maintenant, il y a des patients qui ont été transférés de la Côte-Nord vers d'autres milieux, pas parce qu'ils demandaient une expertise qu'on n'a pas sur la région, mais principalement parce qu'on n'avait pas de main-d'œuvre. Cette main-d'œuvre-là, on l'a perdue. Notre main-d'œuvre infirmière, on l'a perdue. Et on se retrouve finalement à ne plus pouvoir soigner des problèmes actifs, des soins actifs, on le perd. Et c'est là où nous, les médecins, on se dit, écoutez, on va faire une mise au point parce que c'est comme si tout était réglé, mais c'est tout simplement faux. Il n'y a rien qui est encore réglé. Oui, on a bloqué le transfert de nos personnes vulnérables, nos personnes âgées, mais nos personnes qui rentrent à l'urgence, ils sont à risque d'être transférées alors qu'on aurait pu les traiter ici. Puis la pédiatrie, je le répète, la pédiatrie n'a pas été réglée. Puis ce point-là, là, c'est pas normal. On apporte une souffrance aux parents des enfants. Les enfants qui viennent avec une simple infection virale, qu'on voudrait juste les hydrater, les garder chez nous, on ne peut plus faire ça. On essaie soit d'aller les envoyer à Sept-Îles ou il faut les envoyer ailleurs à l'extérieur. Puis même à Sept-Îles, leurs capacités ne sont pas importantes. Ce n'est pas comme un hôpital de grand centre.
Vous donnez un exemple très flagrant dans votre lettre d'un enfant de 7 semaines qui a dû être transféré. Quand vous parlez de soins actifs, c'est que vous devez régulièrement prendre ses signes vitaux, etc. C'est que vous devez avoir un suivi serré juste pour le commun des mortels. C'est ce que vous voulez dire, soins actifs?
Oui, un soin actif, c'est ça. C'est-à-dire le prendre en charge réellement, c'est-à-dire installer un suité, donner des médicaments, donner des antibiotiques. C'est ça, un soin actif. Parce qu'actuellement, oui, on a bloqué le transfert de nos patients âgés on a bloqué ce transfert-là, puis on est heureux pour les familles et ces patients-là, mais ces patients qui sont âgés, souvent, n'ont pas besoin de soins actifs, on les appelle les NSA. Donc, mais nos patients qui rentrent à l'urgence, comme un enfant que j'ai donné comme exemple, cet enfant-là que j'ai traité moi-même, c'est un patient qu'on aurait installé un soluté, on aurait fait un bilan, parce que oui, on a des pédiatres sur la Côte-Nord, oui, ils sont capables d'offrir le même soin qu'en ville, Le seul hic, c'est que j'ai pas d'infirmière. J'ai pas d'infirmière. Je peux pas le garder dans un coin à l'urgence. Ben, je suis obligé de le transférer ailleurs. Je regarde du côté de cette île. S'ils ont trop de capacité du côté de cette île, ils peuvent pas le recevoir. Ben, cet enfant-là est transféré ailleurs et il cherche. Oui, normalement, c'est le CHUL, mais les autres hôpitaux ont le même problème que nous. Il y a un problème de main-d'œuvre également à l'extérieur du Québec. C'est qu'ils vont prendre nos patients en fonction des disponibilités. Puis on n'a même pas les réponses pour leur dire à ceux qu'on a transférés, qu'on aurait pu garder ici. Comment ils vont revenir? On n'a même pas ces réponses-là.
Oui, ouais, puis écoutez, sans aller dans le détail, là, vous avez parlé, puis ça, moi, je me l'imagine, puis c'est ce qui m'a beaucoup touché hier quand j'ai lu des extraits de votre lettre, c'est que ça emmène de la détresse chez les parents. C'est-à-dire, déjà, on est anxieux parce que notre enfant est malade. En plus, on le déracine, on l'emmène ailleurs, puis ça prend du soutien quand notre enfant est malade. Donc, c'est le fun quand on peut se relayer, quand les grands-parents arrivent, quand etc. Mais c'est un peu ça que vous avez vécu aussi, une espèce d'appel à l'aide du parent de dire hey, « Écoutez, je veux pas aller à l'extérieur. »
Ben c'est ça, je veux pas aller à l'extérieur. Puis t'sais, ça veut pas dire qu'une famille qui vient de Baie-Comeau, ben, elle serait prête à aller à cette île, parce qu'on nous parle aussi des fois qu'on peut faire un transfert intra-régional. Fait que t'sais, des fois quand on regarde les solutions offertes par Québec, c'est des solutions que ben ils ne connaissent pas la réalité de notre terrain. Là.
Ouais.
Et c'est là le hic, c'est que là, on se retrouve avec de l'impuissance face aux parents. Les parents, ils nous demandent peux-tu aller ailleurs? On a de la famille dans ce coin-là. Et là, on dit non, on ne peut pas, c'est pas nous qui décidons en tant que tel. Fait que l'impuissance du côté des soignants, puis de l'impuissance pour la famille, c'est pas des soins humains, puis c'est ça que j'ai répété depuis maintenant plus de 24 heures.
Ouais.
C'est inéquitable, puis on a voulu nous étouffer en disant, bon, ben, il y a une équipe volante. On a une équipe volante. L'équipe volante, on a entendu parler de rien que ça, là. Il n'y a pas d'effectif encore. Puis nous, ce qui nous inquiète dans tout ça, quand on regarde les détails, le fin détail, c'est toujours ça le plus important, là. La FIC n'a rien signé. La FIC, c'est 85 000 infirmières. Fait que, tu sais, ça, c'est le point, là. Donc, son équipe volante en tant que telle, pas sûr que ça va avoir un impact positif pour nous encore, parce que nous, on a donné les solutions qui sont réelles. La solution réelle, c'est que pour favoriser l'implantation, le recrutement, la rétention du personnel, ben, il y a des majorations, il y a des points qu'on pourrait faire du point de vue salarial pour dire à telle personne, si tu viens t'établir sur la Côte-Nord, pour X temps, ben, tu auras une majoration salariale par rapport au grand centre, parce que ça fonctionne pour les fédérations médicales. On peut le faire pour les autres professionnels de la santé. Ça, ouais. C'est des affaires qui sont permanentes, solutions permanentes.
C'est ça un peu les objectifs pour la sortie de crise, parce que...